Le CF Montréal affrontait une des pires équipes de la Ligue hier après-midi, le Fire de Chicago, et l'équipe a aussi offert une des pires performances de sa saison jusqu'ici, mais elle a quand même réussi à se sauver avec la victoire 1-0. On retrouve Vandril Lefebvre. Salut Vandril.
Salut Evelyne.
Dans notre émission spéciale d'hier soir, on est revenu sur le match, toi et moi, et on commentait le déséquilibre fascinant qu'il y a chez cette formation entre la performance et le résultat. Et hier, on en a eu un autre bel exemple, mais inversement à ce qu'on a habituellement. C'est-à-dire que la performance n'a pas été là, mais au moins pour une fois, le résultat y a été.
Effectivement, écoute, hier, c'était un match, et puis ils l'ont avoué, le staff technique et les joueurs, sans trop de difficultés, que c'était un match plutôt raté dans le contenu. Alors, l'important à la sortie du match, effectivement, c'est d'être allé récolter les 3 points, et on le sait, c'était d'autant plus important après les 2 contre-performances des week-ends précédents. Maintenant, c'est vrai que, contrairement à ce qu'on voyait en début de saison, on a eu un CF Montréal qui avait du mal à établir son jeu. On avait un CF Montréal qui avait beaucoup de déchets techniques. On avait un CF Montréal qui, défensivement, n'était pas aussi, aussi rigide, aussi ne donnait aucune concession à l'adversaire. Hier, il y a eu des moments de flottement où on aurait pu payer un peu le prix. Ça s'est pas passé. Diop a aussi été très bon. Mais on s'en sort avec les 3 points. Alors écoute, un juste retour des choses, parce qu'effectivement, les semaines d'avant, le contenu était meilleur et malheureusement, on avait échappé des points.
Il y a plusieurs joueurs qui ont très mal joué, mais saluons quand même Mason Toy, qui revient d'une blessure et réussit à marquer le seul but du match. On s'est ennuyé de lui, hein?
Oui, écoute, Mason Toy, l'an dernier, beaucoup d'attentes à son arrivée, parce que c'est un joueur qui avait été acquis pour un montant de l'ordre du demi-million de TAM. C'est beaucoup d'argent en MLS, être capable de recruter un joueur à ce tarif-là, et il était venu et avait déçu, beaucoup de difficultés à se mettre en œuvre, à s'intégrer dans le groupe et à performer. Donc, quand le début d'année est arrivé ici, je dirais qu'il y avait plutôt des a priori négatifs généralisés sur lui, et pourtant, ça reste un bon joueur. Et puis, en ce début de saison, oui, il a été freiné par une blessure, mais les 2-3 premiers matchs avaient été extrêmement performants. Il a disparu suite à une blessure, il réapparaît hier et vient donner la victoire aux siens. C'est un très, très bon début de saison de la part de Mason Toy, et c'est quelqu'un qui pourrait venir brouiller les cartes dans le visuel qu'on pouvait avoir sur la dynamique offensive du CF Montréal cette année.
Il y a Mustapha Kiza aussi qui a été laissé de côté hier, remplacé par Zoran Basson, qui connaissait son tout premier départ. Sa première demi a été difficile, mais il a quand même la passe sur le but de la tête de Mason Toy. Et hier, c'était un peu... sa place dans l'alignement dépendait un peu de sa performance d'hier. Il était comme en audition. Tu l'as trouvé comment?
Écoute, moi, je le trouve intéressant, Zoran Basson. Alors, quand je dis intéressant, c'est... Avec ça vient de plusieurs choses. C'est quelqu'un qui a un énorme volume de jeu, beaucoup d'activités, extrêmement généreux dans les efforts, que ce soit les replis défensifs comme les dédoublements offensifs. Donc là-dessus, il amène un profil qui est extrêmement important parce que dans le système avec lequel veut jouer Wilfried Nancy, les 2 joueurs de couloir, qui sont respectivement Zach Boguillard à droite et à gauche, un coup Kiza, un coup Lapalainen et en l'occurrence Zoran Basson hier, on leur demande énormément d'activités nord-sud. Il faut qu'ils soient capables de tenir 90 minutes à un haut niveau d'intensité de course. Ça, il l'amène. Après, écoute, c'est un jeune joueur. Il y a des déchets, il y a quelques erreurs, il y a des choix qui parfois sont discutables et qui ont coûté des buts dans les semaines précédentes. Mais hier, regarde, et puis en plus, son centre, c'est un centre de grande qualité et du pied droit. C'est un gaucher 100% purlin. Donc moi, je le trouve très intéressant dans son activité. Si c'est un joueur qu'on arrive à être capable d'insérer dans l'aliment, lui donner des minutes régulièrement, il va que se bonifier avec le temps.
Le match aussi d'hier, ça avait beau être contre une équipe plus faible, c'était quand même un match important pour le classement parce qu'une victoire propulsait au 3e rang le CFM à égalité et une défaite pouvait les faire chuter au 7e rang, peut-être même plus bas, là. Donc, ils sont présentement au 3e rang à égalité avec New York, mais avec un match en main. Est-ce que tu sens que c'est une position qui leur revient, qui est méritée et qui correspond à ce que tu vois sur le terrain?
Je pense que dans le contenu, si on fait une moyenne des 8 premiers matchs qui ont eu lieu, oui, je dirais que le CF Montréal mérite d'être dans cette première moitié de tableau, mérite une place en série au regard de ces 8 premiers matchs. Maintenant, attention, on est dans une ligue dans laquelle il y a une certaine parité. C'est notamment ça qui fait que tu le dis, avec une victoire hier ou avec une défaite, il pouvait passer soit de la troisième, soit de la septième, huitième place. Donc ça fait énormément de différence. Faut faire attention parce que après huit matchs, il n'y a rien de décanté encore. Mais il est sûr, et peu de monde dira l'inverse, que le début de saison du CF Montréal dépasse les attentes qu'on pouvait en avoir, tant au niveau comptable, c'est-à-dire leur niveau dans le classement, qu'aussi au niveau de, je dirais, de la production, ce qu'ils sont capables de faire dans le contenu, week-end après week-end, au niveau du jeu. C'est vraiment de bon augure pour le reste de la saison.
Donc, tu n'es pas surpris du tout que Olivier Renard ait annoncé vendredi qu'il exerçait l'option sur le contrat de Wilfried Nancy pour 2022?
Ce qui m'avait surpris, c'est que ce soit pas le cas de prime abord. C'est-à-dire, à partir du moment où on a pris la décision de donner le job à Wilfried Nancy, moi, je suis plutôt de l'école où un entraîneur, faut toujours qu'il ait un an à un an et demi de plus de contrat que le moment où il travaille, tout simplement parce que, ne serait-ce d'un point de vue crédibilité vis-à-vis des joueurs, il a besoin d'avoir la mainmise sur les joueurs, que ces choix soient pas discutés et que les joueurs soient capables de se dire, celui qui est devant moi et qui nous demande de jouer comme ça, c'est le boss pour la prochaine année et demie, voire deux ans au moins. Et comme ça, ça pose pas de question. Au niveau du leadership, c'est clair, c'est Wilfried Nancy. Alors, je dirais pas que c'était une erreur, initialement. Je dirais qu'il y a eu des raisons, sans doute stratégiques à l'interne, qui ont poussé le club à le faire de cette manière. Mais pour moi, il était normal qu'on vienne un petit peu régulariser cette situation et qu'on se commette un peu plus à moyen terme avec Wilfried Nancy.
Ils l'ont quand même fait tôt. On est encore tôt dans la saison. C'est pas comme s'ils l'avaient renouvelé à la fin ou plus tard, là. C'était quand même respectable comme délai.
Absolument. Oui, absolument. Puis écoute, on aurait pu attendre. Rien ne les forçait à attendre, contractuellement parlant. Mais moi, je pense que pour la dynamique collective, la dynamique de groupe, qui plus est à vivre ensemble au quotidien pour le reste de l'année, le début de saison est suffisamment rassurant pour qu'on puisse faire le pas et donner cette option, enfin prendre cette option qu'on avait sur le contrat de Wilfried Nancy. D'une part, c'est mérité, d'autre part, ça se défend d'un point de vue collectif.
Vandril, là, le CF Montréal a une pause de 4 semaines. Pourquoi, au fait? C'est quoi cette pause-là?
Écoute, la dynamique du soccer international, c'est qu'il y a un certain nombre de compétitions qui se chevauchent et qui plus est quand arrive l'été. Une fois tous les deux ans, on a des compétitions internationales qui prennent de l'ampleur au niveau de et qui prennent la place en réalité. Un coup c'est la Coupe du Monde, un coup c'est le Championnat d'Europe ou la Copa América, puis il y a même la Gold Cup. Là cette année, il y a la Copa América, il y a des qualifications et il y a surtout l'Euro. Donc on essaie d'agencer les calendriers en MLS avec les calendriers mondiaux. On sait qu'on n'a pas nécessairement la même réalité, mais avec une ligue qui s'internationalise de plus en plus, on a des joueurs qui sont performants en MLS et qui sont appelés par leur équipe nationale.
Lassi Lapalainen est avec la Finlande, là, justement.
Absolument. Donc, on essaie de pas pénaliser les équipes, finalement, qui ont des joueurs importants qui partent faire le championnat d'Europe pour essayer que la MLS, tout simplement, ne soit pas un championnat qui soit dicté par les aléas des calendriers internationaux.
Merci, Vandril. Et tu sais quoi, notre émission finit à la fin juin. Là, on est en pause pour l'été, mais je vais quand même essayer de te reparler à la fin du mois pour voir ce qu'il y aura à suivre pour le CF Montréal cet été.
Pas de problème, Evelyne. Je te remercie.
Merci.
Beaucoup.
Toujours un plaisir.
Bye bye. Salut.
On s'arrête pour une courte pause et au retour, on est avec Martin McGuire qui nous présente des extraits du point de presse de ce matin au lendemain de la belle victoire du Canadien.